morning edition from NPR News.
Merci, Tinsan, people, how is it?
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, en ce jour 90 de la guerre en Ukraine, 3 mois pile, on est heureux d'avoir avec nous Antonio Fischetti et Rhys de Charlie Hebdo, de retour d'Ukraine avec, dans leur besace, des dessins que vous verrez dans Charlie, dans l'édition de demain, parce que les dessinateurs ukrainiens n'ont pas cessé de dessiner, de se moquer férocement des Russes, évidemment. On parle de ces dessins de guerre, de l'humour de guerre aussi, dans un tout petit instant. Le bruit du monde, ce soir, est à Pékin, qui n'est pas encore confiné façon Shanghai, comme vous le savez, mais qui voit l'étau se resserrer. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie a donc trouvé un responsable syndical à La Paz, étudiant depuis 33 ans, un millionnaire anglais qui veut payer plus d'impôts et des moutons à Barcelone qui broutent pour éviter les incendies. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec des présentatrices désormais intégralement voilées à la télévision afghane et une compagnie aérienne dans le Golfe 100% au féminin. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, ou comment ce sont les pays émergents, les pays les plus petits, les plus pauvres, les pays les plus éloignés du conflit ukrainien qui en font le plus les frais. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Antonio Fischetti.
Bonsoir.
Et bonsoir Rhys. Merci bonsoir. Beaucoup à tous les deux. Vous écrivez, vous dessinez, vous dirigez, Charlie aussi, vous Rhys. Je le disais, demain donc on verra des dessins de dessinateurs ukrainiens. Vous leur avez ouvert vos pages, en même temps qu'une exposition d'ailleurs qui se tient à Odessa et dont les bénéfices, puisque les dessins sont vendus, vont directement au financement de la défense territoriale. On va y venir à cette exposition qui s'appelle « Navire russe va te faire foutre », qui est devenue une expression culte. Mm-hmm. Mais je voudrais d'abord commencer avec vous, Antonio Fischetti, parce que ça commence par un reportage sur l'humour de guerre à Kiev, hein, et qui se passe pas forcément très bien pour vous d'ailleurs. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on n'a pas forcément le même humour. D'abord, l'humour n'a pas disparu. Ça, c'est la première chose que vous avez pu constater. À Kiev, on se marre toujours, on fait des stand-up, il y a des humoristes, tout ça, ça existe encore.
Oui, parce qu'en fait, avant de partir, on se disait, avec Rhys, qu'est-ce qu'on peut faire comme sujet sur la guerre, qui soit différent de ce qu'on peut lire à longueur de journée, dans tous ces drames, hein, évidemment. Donc, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il y a de l'humour? Donc, j'y suis allé en sachant pas forcément ce que j'allais trouver, en me disant, ça se trouve, ça va être pas du tout évident. Et il y a effectivement, donc déjà, j'ai eu connaissance de spectacles, d'humoristes, hein, de stand-up. Et donc là, vous disiez, oui, effectivement, j'étais d'abord très mal reçu, tout simplement, parce que il y avait, alors on m'a... J'ai rencontré des gens qui faisaient du stand-up qui ont refusé de me parler. Ouais. À cause d'un dessin de Russe,
ouais,
justement, d'une caricature sur la maternité de Mariupol. Et donc, c'était de l'humour noir à la Charlie. Mmh. Et donc, à cause de ce dessin qui n'était même pas en couverture, mais dans une page d'intérieur de Charlie, ils ont refusé de me rencontrer. Et même ceux que j'avais vus la veille m'ont rappelé pour dire on ne veut pas apparaître dans Charlie. Donc, ça m'a fait perdre 2 jours quand même. Ouais, ouais. En plus, même ma traductrice, après, a été choquée et voulait même plus. Enfin, c'est moi qui lui ai dit il vaut mieux qu'on se sépare. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, j'ai eu quand même après d'autres...
Alors, on va y venir, mais d'abord, est-ce que vous êtes tombé de votre chaise ou pas? Est-ce que le dessin vous avait précédé ou est-ce que c'est vous
qui... Non, il m'a précédé, le dessin. C'est-à-dire, ça, le problème, c'est-à-dire que quand on va dans un pays, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé aussi en Italie, les dessins, en fait, circulent à la vitesse d'Internet et des gens qui ne lisent jamais, qui n'ont jamais ouvert Charlie, découvrent ces dessins et souvent, ils le comprennent à contresens, en fait, parce qu'ils croient qu'on se moque des victimes, alors qu'évidemment, non, on dénonce les drames et c'est l'inverse.
Et c'est intéressant, Rhys, ça, parce que, évidemment, qu'on n'a pas le même humour. Alors, pour décrire votre dessin, c'est effectivement après la maternité de Mariupol, c'était une femme les jambes écartées avec un obus entre les jambes et qui disait, là, les Russes vont quand même trop loin.
Oui, bah c'est une manière un peu crue de dénoncer la violence des Russes. Bon, mais c'était à la manière de Charlie, mais c'était évidemment un dessin anti-poutinien, si on peut dire. Mais là-bas, ils l'ont pas vu comme ça. Mais je suis même pas sûr qu'ils aient bien lu la légende et qu'ils aient même bien compris la subtilité. Voilà. Bon, mais c'est vrai qu'après, quand Antonio a été à Odessa, il a rencontré des dessinateurs de presse qui étaient peut-être un peu plus habitués à ce genre d'humour et qui l'ont accueilli un peu mieux. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas habitué à ce genre d'humour, que ce soit en France et aussi à l'étranger. Il faut dire.
Et c'est intéressant parce que, pourtant, et c'est ce que vous racontez dans ce papier, les Ukrainiens sont montés d'un cran dans leur humour. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont devenus plus rudes, plus obscènes même, qu'ils osent des choses qu'ils n'osaient pas faire avant. Donc ils sont en train de se rapprocher de vous, en fait, Rhys.
Ah, je sais pas. Peut-être...
Attends, pas à ce point-là.
Non, mais c'est vrai que peut-être que les enjeux sont beaucoup plus cruciaux, donc on prend moins de pincettes, on va dire. Voilà, on va plus au fond des choses. Voilà.
On vous a dit, Antonio Fischetti. Moi, je trouve ça vraiment passionnant la manière dont les uns les autres on perçoit les choses. Pour l'instant, peut-être, en tout cas, mais on se moque pas de notre traumatisme, en fait.
Oui, c'est la limite. C'est-à-dire que cet humour, donc, qui est devenu plus cruel. Hein, j'ai même interrogé un spécialiste de l'humour, de l'ironie, de la satire, donc un universitaire.
Il était moins choqué, mais qui a tiqué un peu.
Voilà, oui. Maintenant, après, donc, je leur montrais systématiquement la caricature, donc il grimaçait un peu, mais il m'a pas viré. Et l'espace de l'obscénité s'étend, c'est-à-dire ne serait-ce que navire de guerre russe va te faire foutre. C'est une expression qui est devenue culte, hein, mais c'est en fait assez grossier, très vulgaire là-bas, puisque c'est même une expression encore plus vulgaire que ça, qui est utilisée. Effectivement, la limite, c'est pour se moquer des Russes, des envahisseurs, ce qu'on comprend. Mais il n'y a pas d'autodérision. Par exemple, l'idée de nous, comme on fait à Charlie, par exemple, on utilise les victimes dans un dessin pour dénoncer. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fera pas. Une autre limite, c'est par exemple se moquer du président Zelensky. Ça, ça n'existe pas. Vous voyez, en fait, c'est humour noir. Il s'adresse. C'est une réponse de survie, en fait, une résilience indispensable, mais à l'encontre des envahisseurs, des agresseurs.
Est-ce que vous avez le sentiment, Riz, que c'est comme ça, c'est dans la culture ukrainienne, ou c'est aussi une forme d'autocensure, et peut-être que pas encore, en fait.
D'autocensure, c'est-à-dire
des Ukrainiens, de se dire non, là, Zelensky, pour l'instant, j'y touche pas. Est-ce qu'il y a un pour l'instant, j'y touche pas?
La limite aussi à notre regard qui vient de France, c'est que moi, je sais pas ce que c'est que de vivre dans un pays en guerre. Je sais pas comment je réagirais si la France était dans un état pareil. Donc, même si j'essaierais certainement toujours de faire des dessins satiriques, est-ce que je me moquerais de tout de la même manière? C'est vrai que quand on est dans une situation comme ça, la cible principale, c'est quand même les agresseurs. C'est ça la priorité. Après, le reste, ça vient après, quand même. Faut hiérarchiser aussi les priorités, quoi.
Et du coup, mettre leurs dessins dans Charlie, est-ce que c'était une manière de les aider, de les montrer, évidemment, mais aussi de leur faire comprendre que votre humour et leur humour, enfin, tout ça peut se mélanger joyeusement dans les mêmes pages?
Mais c'est quelque chose qu'on a souvent constaté quand on va à l'étranger. Il y a toujours des gens qui comprennent l'humour de Charlie, et on comprend aussi des dessins qui sont parfois très marrants et très satiriques, qui sont faits par des dessinateurs étrangers. Donc il y a surtout qu'en plus de ça, comme le dit un des dessinateurs interviewés par Antonio, il dit lui-même, je mets de moins de légende dans mes dessins et je fais plus de dessins muets. Et c'est vrai que le dessin muet, c'est international. Comme c'est visuel, tout le monde peut comprendre. Et c'est vrai que c'est vraiment un langage universel, le dessin d'humour, qui plus est sans parole.
Vous les connaissiez, ces dessinateurs, avant? Comment ça se passe une fois arrivé à Odessa? Quand vous arrivez, d'abord, vous savez, il y a quelque chose de particulier dans cette ville d'Odessa, de toute façon.
Oui, alors j'avais envie déjà, avant même d'avoir eu connaissance de cette exposition de dessin, d'aller à Odessa, puisque c'est une ville qui a un peu la réputation d'être la ville de l'humour en Ukraine. Et par exemple, il y a un festival de l'humour organisé tous les ans. Alors, on dit que c'est grâce ou à cause disons, des racines juives de la ville très ancienne, on a cultivé un certain second degré dans cette ville depuis très longtemps. Et effectivement, quand j'y suis allé, enfin voilà, j'ai découvert qu'il y avait des spectacles de musique, par exemple, qui n'existaient pas à Kiev. Donc, c'est d'exposition de dessinateurs organisées aussi avec le Rotary Club, vous voyez. Donc, j'étais aussi quand même étonné. Alors, on parle des dessinateurs que je connaissais pas, qui publient souvent, justement, sur leur site Facebook. Hein, il y a très peu de journaux qui publie des caricatures quand même. Donc, mais j'étais aussi étonné de voir quand même qu'en dehors du monde des dessinateurs, l'humour est omniprésent dans la société, puisque vous voyez, quand on regarde les images donc à la télé, on voit que les images de drames. Effectivement, donc il y a ça existe, mais il n'y a pas que ça, parce que la vie continue en fait. Et donc pour survivre, il faut de l'humour, et cet humour, même quand on parle des fêtes de guerre ou des actes de résistance, vous voyez, on le dit souvent avec le sourire, parce que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement présent.
C'est important, c'est ce que vous racontez. Il y a notamment cette dame qui détruit un drone avec un bocal de tomates, qui n'est pas un bocal de cornichons, fake news, mais bien de tomates, et c'est ce qu'elle vous raconte.
Enfin, c'est une dame qui est devenue une héroïne anonyme, hein, parce qu'en fait, elle a vu passer un drone de renseignement russe à portée de sa fenêtre, elle a balancé un bocal, et puis je crois que ça avait été filmé sur Internet, c'est devenu un bocal de cornichons, mais elle a tenu à rectifier, non, c'est un bocal de tomates. Donc tous les Ukrainiens justement se moquent des Russes en racontant cette anecdote. Et puis aussi, ça il y a un lien avec le dessin, puisqu'il y a aussi une autre dame, héroïne anonyme, qui un jour, qu'elle était arrêtée par des Russes, a dit à un jeune soldat, tu devras mettre des graines de tournesol dans tes poches, parce que quand tu seras enterré, ça sera utile. Et ça, c'est devenu extrêmement populaire, ouais. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des dessins qu'on voit sur les murs, hein, des villes ukrainiennes, de soldats avec des graines dans leurs poches, et puis ils sont enterrés, il y a du tournesol qui pousse, vous voyez, donc en fait, il y a un lien comme ça avec cette culture populaire de l'humour noir qui entraîne, disons, voilà, qui a des répercussions dans le monde du dessin.
Mais c'est marrant parce que, effectivement, l'humour noir est très très différent, il est peut-être moins violent que le vôtre, mais dans les dessins que vous publiez, ils sont très féroces envers les Russes, effectivement, il y en a qui sont très drôles parce qu'on voit des chars qui sont rafistolés n'importe comment, on se rend bien compte de l'état de l'armée russe, il y en a, on voit la fameuse grande statue du duc de Richelieu quand on arrive à Odessa qui fait un doigt d'honneur géant au bateau russe qui est en train d'arriver, mais il y a quand même des choses qui sont très très raides, enfin je veux dire, il y a ce dessin d'un toboggan pour enfants avec un missile en haut du toboggan, en haut, en bas il y a des enfants, et on se souvient bien qu'il y a des enfants qui ont été bombardés, donc à la fois dans le visuel c'est moins violent peut-être que ce que vous pouvez faire vous, Rhys, mais c'est terrible quand même, c'est tout aussi terrible en fait.
Ce que ce dessinateur fait, si on prend ce dessin, en fait, il met dans une image des contraires qui ne devraient jamais se rencontrer, c'est-à-dire des militaires avec des armes et des gosses. Voilà. Et rien que l'association de ces deux choses crée un choc en fait. Et c'est dessiné dans un style un peu humoristique et drôle, pas dans un style très réaliste. Et ça accentue encore le côté humoristique de la chose.
Il s'appelle Oleg Gutzol d'ailleurs, autant de donner son nom. Effectivement, c'est dessiné, c'est très dessin animé en fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est Disney.
On se dit ça va être amusant parce que le trait est amusant et en fait ce que ça dessine c'est pas amusant du tout. Mais c'est comme ça que fonctionne un peu le dessin de presse ou le dessin d'humour. C'est le contraste. Mm. Voilà, c'est de réunir des contraires, de les mettre ensemble dans la même image en fait.
Comment vous les avez choisis? Parce qu'il y en avait une quarantaine dans l'exposition.
Il y en avait une centaine
même. Ouais.
Il y en a une centaine. Moi j'ai pris ceux qui étaient, peut-être ceux qui avaient le moins de paroles, où il y avait le moins de références pour qu'ils soient facilement compréhensibles. Et puis il y en a qui fonctionnaient très bien. Ceux qui fonctionnaient le plus vite possible, quoi, qui étaient plus efficaces.
Ouais, et c'est marrant comme vous parlez de ce dessinateur qui dit de plus en plus je fais des dessins muets. Et en fait, je me rends compte là qu'ils sont muets dans une très grande majorité, en fait.
Oui, c'est ça.
En fait, la seule chose qu'on voit de temps en temps, c'est cette phrase que j'ai trouvée géniale, c'est le Russe qui cherche sa route. Ils cherchent toujours leur route, les pauvres Russes, en fait, partout. Mais sinon, ils sont muets dans leur écrasante majorité, en fait.
Dans ceux qu'on a choisis, oui.
Ouais. Voilà.
Parce que c'est vrai que quand il y a des dialogues, souvent, il y a des références qui nous échappent un peu aussi. Il faut dire ce qui est.
Vous allez les revoir? Est-ce qu'il y a une revoyure? Est-ce qu'on se dit, il faudra redemander des dessins? Faire tourner tout ça ou pas?
On va voir, peut-être que ça va les inciter peut-être à venir en France, ou peut-être, je ne sais pas si on peut aller les voir, mais c'est possible qu'on les rencontre. Mm. On serait heureux de les rencontrer un jour, c'est sûr.
Parce que cette expo, elle devient quoi ensuite à Odessa?
Alors là, elle se terminait là, à Odessa, mais les organisateurs ont décidé de la faire circuler dans d'autres villes ukrainiennes, puisque en fait, le but c'est de vendre les dessins aux enchères pour, comme vous le disiez au début, donc récolter des fonds pour la défense territoriale. Donc voilà, elle va circuler en Ukraine.
Est-ce que il y a eu des échanges aussi avec Charlie? Est-ce que vous avez réussi à montrer à quoi ressemblait l'humour Charlie, à en laisser quelques-uns derrière vous?
Ils connaissent les dessinateurs. Justement, le monde des dessinateurs, c'est complètement différent du monde des humoristes de stand-up. Hein. Ils connaissent Charlie. Pour eux, c'est quand même la référence. Voilà, absolue pour eux. C'est sûr, ils connaissaient tous Charlie, tous les dessinateurs.
Mm. Rhys, là-dessus, effectivement, il faut en laisser derrière des Charlie, y compris à Odessa, pourquoi pas, non?
Oui, mais si ça peut susciter des vocations là-bas ou ici, enfin voilà, comme quoi le dessin, ça a une certaine efficacité, quoi, ça sert en fait. On ne perd pas son temps en faisant du dessin satirique.
Non. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il y a des enfants qui s'appellent Javeline en ce moment.
Oui, voilà, donc le Javeline, c'est le missile
anti-char.
Extrêmement efficace, hein, pour vaincre les chars russes, et donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été appelés Javeline, justement. Et donc on le dit aussi avec humour, donc c'est que la caricature est importante, et l'humour aussi dans la société est important, c'est vraiment une arme de résistance massive, comme je le dis dans le titre.
L'humour, il continue, ses dessins, ils seront vendus quand ils sont vendus au décès, ils le sont, donc évidemment... tout ça est très bénévole pour les dessinateurs. Ils sont vendus donc pour la défense territoriale. Le papier qu'on va trouver demain dans Charlie s'appelle « Comment faire du second degré avec une guerre au premier degré ». Et on vous remercie beaucoup tous les deux d'être passés dans Un jour dans le monde. Bravo encore et merci beaucoup.
Merci
vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Chine, qui ne confine pas comme à Shanghai, mais qui voit bien combien sa situation se tend. C'est ce que nous racontera Sébastien Berriot dans un petit instant. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
On entendra un millionnaire anglais qui manifeste à Davos en Suisse et qui demande à être plus taxé.
Pas son genre dans le monde, Julia Foyce, bonsoir. Oui, c'est bien vous. Hein.
C'est
enchantée.
Ça, des présentatrices intégralement voilées désormais à la télévision afghane.
Allez, le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc.
Oui, c'est bien moi. Bonsoir à tous. Au bout de 3 mois de guerre en Ukraine, ce sont les pays qui n'ont rien à voir avec le conflit, pays pauvres ou émergents, qui sont en train de payer la facture.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par Glasgow et les Franz Ferdinand Curious. C'est un extrait du tout premier best-of Hits on the Head du groupe écossais. Le bruit du monde ce soir est à Pékin, qui ne confine toujours pas, mais qui voit bien qu'elle bascule doucement vers des mesures de plus en plus strictes et que de plus en plus des habitants sont envoyés dans des centres de quarantaine. C'est pas Shanghai encore, mais quelle drôle d'ambiance. Le reste, c'est Sébastien Berriot qui raconte.
Vendredi dernier, en pleine nuit, les habitants d'un immense complexe résidentiel dans le district de Chaoyang sont réveillés par des hommes en tenue de protection intégrale qui frappent aux portes. À peine le temps de comprendre ce qui se passe, l'ordre est donné à quelques 13 000 résidents de sortir des appartements. Les habitants n'ont pas le choix, ils sont emmenés de force dans un centre de quarantaine. La raison, 26 cas de Covid détectés dans la résidence. Cela suffit pour évacuer tout le monde, même les personnes testées négatives. De l'autre côté de la rue, une habitante commente la scène sur les réseaux sociaux.
Vous voyez maintenant, un autre bus est parti avec un groupe de résidents. Les navettes font la file d'attente et ils emmènent les gens en isolement. J'ai vu les véhicules de police qui sont venus parce que les gens ne voulaient pas partir. La police va voir les habitants pour les obliger, c'est horrible. Tous doivent partir.
Les envois en centre de quarantaine, c'est devenu la hantise des habitants de Pékin, d'autant plus stressant que la destination finale est inconnue. Certains Pékinois se sont retrouvés très loin de chez eux, dans la province voisine du Rebeil. Ce qui s'est passé vendredi dernier fait très peur à cette jeune femme.
Je me suis sentie aussi désespérée que ces habitants. Quand j'ai appris ces informations, j'ai vraiment eu l'impression que cela m'arrivait à moi. Je ne pense pas que le gouvernement soit entièrement responsable de la situation actuelle, mais le problème se situe au niveau de la gestion, à la base, au niveau des personnels des comités de quartier. Une partie d'entre eux ne réfléchit pas réellement à la manière d'améliorer les choses. Ils veulent juste essayer de dégager leurs responsabilités si des cas de Covid surviennent dans leur secteur.
Dans les rues du quartier d'affaires de Sanlitun, la vie semble presque normale. Il y a un petit peu de circulation, des habitants qui vont au supermarché. Mais ce n'est qu'une apparence. La foule habituelle de ce quartier animé a disparu. Les restaurants n'ont plus le droit d'accueillir des clients. Et tous les magasins non essentiels ont reçu l'ordre de fermer. Les travailleurs, eux, ont complètement disparu. Dans tout le district, le télétravail est devenu obligatoire. Certains trouvent refuge dans un parc voisin qui, pour le moment, reste ouvert. Cet employé de 54 ans travaille sur un banc avec son ordinateur sur les genoux et il a du mal à supporter la situation.
Les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie ont un impact important sur ma vie. Mon entreprise se situe au sud du district de Chaoyang, où les taxis sont interdits. On n'a plus le droit non plus d'utiliser sa voiture personnelle et la station de métro est fermée. Je souhaite que tout ça se termine rapidement, que la vie redevienne normale. Pour mon travail, les affaires ont été beaucoup affectées avec des problèmes financiers. Maintenant, je suis toujours sous pression.
Un peu plus loin, la rivière Liangma. La semaine dernière, les fêtards avaient trouvé refuge sur la promenade. Mais cela n'a pas plu aux autorités qui ont installé de grandes palissades pour empêcher les pique-niques et les regroupements. Le site est maintenant désert. Mais une certaine forme de résistance s'organise. Les groupes de jeunes se retrouvent désormais le soir à quelques centaines de mètres de là, dans une rue plus discrète, où des repas improvisés sont organisés sur le trottoir.
Je suis une personne qui aime sortir, surtout le soir. Il y a beaucoup moins de monde maintenant et je trouve qu'il n'y a pas assez d'ambiance et d'atmosphère de vie.
Beaucoup d'étrangers, lassés par les restrictions sanitaires et les dépistages quotidiens, ont quitté Pékin. Pour ceux qui restent, le quotidien est éprouvant, comme pour cette jeune Congolaise, Anita, qui travaille ici.
C'est vrai que ce n'est pas facile, ça fait vraiment peur. Je ne peux aller nulle part, sans qu'il n'y ait de complications. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut qu'attendre.
Les enfants sont aussi les victimes de cette crise sanitaire. Les écoles sont fermées, les cours sont organisés en ligne, mais dans des conditions difficiles pour Duan Duan, 9 ans.
Les réseaux internet ne sont pas stables. J'écoute souvent les leçons du professeur par intermittence et pas aussi clairement qu'à l'école. Ce n'est pas aussi efficace et mes amis me manquent.
Les autorités vont-elles franchir le pas et opter pour un confinement généralisé de Pékin comme à Shanghai ? La vice-première ministre Sun Chunlan a effectué hier une visite de terrain en appelant à une réponse plus rapide contre l'épidémie. Inquiétude des Pékinois qui redoutent une mauvaise nouvelle dans les prochains jours.
Sébastien Berriot, le correspondant de France Inter à Pékin. Merci, courage aussi si on vous enferme, si vous referme toutes les portes sur vous, Sébastien. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est l'autre, Sébastien, l'Eugénie. Nous sommes dans les rues de La Paz, Sébastien, la capitale bolivienne. La Bolivie où l'arrestation d'un responsable syndical fait la une depuis ce week-end.
Il s'appelle Max Mendoza, c'est le président de la Confédération universitaire bolivienne, mais surtout il est étudiant depuis, tenez-vous bien, 33 ans, sans avoir jamais obtenu un seul
J'adore
diplôme.
Cette histoire.
Et il vient de se faire arrêter samedi dernier pour avoir abusivement aussi perçu un salaire pendant toute cette période. Son nom est apparu sur le devant de la scène au début du mois, après un rassemblement étudiant qui a viré au drame, un mouvement de foule provoqué par une grenade lacrymogène qui a fait 4 morts et 70 blessés. L'État bolivien décide alors de mettre son nez dans le CV des organisateurs de cette manifestation et les autorités découvrent donc que Max Mendoza est inscrit comme étudiant depuis 1989 dans une université publique gratuite, âgé de 52 ans aujourd'hui. Il a passé 33 ans sur les bancs de la fac sans jamais décrocher un seul examen. Il a échoué à plus de 200 matières différentes. Il a obtenu 0 à plus d'une centaine d'autres, alors qu'il recevait en tant que syndicaliste un salaire de plus de 3 000 $ par mois, presque autant que le président bolivien. Les télés boliviennes se sont évidemment emparées de cette histoire. Les médias savaient que les organisations étudiantes recevaient bien sûr des aides de l'État, comme en France, mais personne ne savait que les dirigeants touchaient des salaires aussi élevés. Max Mendoza est poursuivi pour avoir fait commerce de sa fonction, plus précisément pour enrichissement illégal, comportement anti-économique et détournement de fonds. Lui se défend en expliquant que sa situation était parfaitement légale.
Quand un millionnaire anglais demande à payer plus d'impôts.
Ça se passe, figurez-vous, dans les rues de Davos, en Suisse, là où les millionnaires du monde entier se retrouvent pour le Forum économique mondial, et parmi eux donc un certain Phil White, consultant en entreprise et représentant aujourd'hui des Patriotic Millionaires, les millionnaires patriotes, un groupe de riches hommes d'affaires qui ont décidé de manifester aux côtés de la gauche ce dimanche à Davos pour dénoncer, disent-ils, un système fiscal selon eux totalement injuste. Pour Phil White, que l'on entend ici, il est scandaleux que nos dirigeants politiques écoutent ceux qui possèdent le plus, connaissent le moins l'impact économique de cette crise et dont beaucoup payent malheureusement trop peu d'impôts. Le seul résultat crédible, dit-il, de cette conférence de Davos, ce serait de taxer les plus riches et de nous taxer maintenant. Phil White a aussi envoyé à tous les délégués de Davos une lettre ouverte, In Tax We Trust, et qui appelle à un impôt sur les grandes fortunes, une lettre signée par 150 millionnaires de tous les pays, parmi eux l'acteur américain Mark Ruffalo, autrement dit Hulk, l'héritière de Disney, Abigail Disney, Nick Hanauer, premier investisseur dans Amazon, ou Maurice Purr, l'ancien directeur général de la fameuse société d'investissement BlackRock. Selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam, un nouveau milliardaire se crée toutes les 30 heures sur la planète quand 1 million de personnes tombent dans la pauvreté toutes les 33 heures.
On finit à Barcelone, Sébastien, avec des moutons pour lutter contre les incendies.
Oui, c'est une expérience lancée le mois dernier dans la deuxième ville d'Espagne. On est ici dans une zone méditerranéenne de plus en plus sèche, une zone à très haut risque d'incendie. Alors la ville de Barcelone a eu l'idée d'installer un troupeau de 300 moutons et de chèvres pour brouter les mauvaises herbes sèches d'un grand parc pour tenter d'éviter les feux de broussailles. Le parc en question dans une zone très peuplée avec de nombreuses habitations, une végétation avec un potentiel de combustion énorme et qui pourrait brûler selon les experts en seulement 8 heures. On entend ici le berger de ce troupeau barcelonais, un jeune berger qui parle en catalan à ses bêtes. C'est le premier troupeau à se réinstaller à Barcelone depuis des décennies. Les moutons sont censés passer après les débroussailleuses des services municipaux pour manger les herbes les plus difficiles à atteindre. Une aventure urbaine à laquelle les animaux visiblement se sont parfaitement adaptés et qui redonne des airs de campagne à cette ville d'1 600 000 habitants.
Eh ben, voilà. Formidable. Merci beaucoup, Sébastien Legénie. Bien sûr, vous revenez demain et vous partez avec Marlena Shaw, Woman of the Ghetto, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. La show Woman of the Ghetto. Voilà qui va très bien à Julia Foyce, tiens, qui n'est pas dans le ghetto, mais à la radio, mesdames, messieurs, et autres genres, pas son genre.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec ces images à la télévision afghane.
Des femmes méconnaissables, ou plutôt invisibles, depuis dimanche soir.
Seuls leurs yeux apparaissent dans la fente de ce voile noir qui leur couvre le corps. Les talibans viennent de remporter une nouvelle bataille au début du mois. Ils ordonnent à toutes les femmes de porter le niqab, voire la burqa, dans l'espace public comme dans les entreprises. Mais dans un premier temps, les présentatrices télé avaient refusé. Et samedi dernier, elles apparaissaient encore à l'écran avec un voile, oui, mais qui leur couvrait simplement les cheveux, comme le veut la tradition dans le pays. Tout le week-end, les menaces et les pressions des fondamentalistes au pouvoir à Kaboul ont redoublé. Elles ont dû reculer et se plier à cette nouvelle contrainte. Une de plus, venue s'ajouter à la longue liste des restrictions dont sont victimes les Afghanes depuis août dernier. Elles se bagarrent, hein, comme vous le savez, on en parle souvent ici. Mais plus nouveau, peut-être, elles ont été soutenues ouvertement, cette fois, par une partie de la population masculine. Dimanche, les présentateurs et les journalistes télé sont apparus à l'image, le visage recouvert d'un masque noir, en signe de protestation et de solidarité.
Et Julia, on peut avoir furieusement besoin de bonnes nouvelles, pardon.
Oui, et c'est pour ça que je vous dirai pas que Cecilia Monson, avocate mexicaine, spécialiste des violences faites aux femmes et infatigable militante écologiste, a été tuée par balle en pleine rue par deux hommes à moto dans l'état de Puebla. Ça pourrait vous entamer le moral. Je ne vous raconterai pas non plus comment ces deux jeunes sœurs pakistanaises mariées de force ont été assassinées par leur propre famille parce qu'elles avaient osé demander le divorce. Je vous rappellerai encore moins qu'elles iront directement s'ajouter à la longue liste des victimes de crimes dits d'honneur qui s'élèvent, eux, à 470 plus d'un par jour pour l'année 2021
au Pakistan. Non, je ne vous le dirai pas parce qu'on veut du love et qu'on veut du lol, Fabienne. Alors je vous dirai plutôt que les 6 militantes suisses qui avaient manifesté seins nus pour le 8 mars, qui avaient été arrêtées, qui avaient été poursuivies pour troubles à la tranquillité publique et habillement contraire à la décence, rien que ça, ont été acquittées. Décision suffisamment rare pour être notifiée. J'ajouterai dans la foulée que l'Autriche emboîte le pas à l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ou encore la France tout récemment. Hein, les personnes gays, bi et trans pourront désormais donner leur sang, sauf si elles ont eu dans les 3 derniers mois plus de 3 partenaires. Mais ça, c'est exactement la même règle pour tout le monde. Bref, égalité, enfin, ça y est, devant le don sans discrimination de genre ou d'orientation sexuelle.
Égalité aussi sur le tarmac en Arabie Saoudite.
L'image est surprenante et elle est très clairement faite pour, hein, en plein soleil et tout sourire, au pied de l'avion, elles sont sept femmes en uniforme, veste violette, pantalon, basket, plus cravate et galon pour la pilote et sa copilote. À elles toutes, elles forment le premier équipage exclusivement féminin recruté par une compagnie aérienne saoudienne, en l'occurrence Flydeal. Et jeudi, elles se sont envolées de Riyad pour Jeddah, sur la côte ouest du pays. Alors évidemment, on se souviendra quand même que l'Arabie Saoudite s'est lancée dans une grande opération de séduction pour conquérir le marché aérien et qu'un signal d'ouverture, ça peut toujours aider. Aider à oublier, par exemple, les arrestations arbitraires et les condamnations sommaires des opposants au régime. N'empêche, jusqu'en 2019, les Saoudiennes n'avaient même pas le droit de conduire une voiture. Alors, sans crier à la révolution non plus, on peut se dire que doucement, les choses avancent un petit peu. Ouais, j'avais des envies de verre à moitié plein, moi, ce soir.
Mais ça nous fait du bien, hein, Julia, de temps en temps. Merci beaucoup. Vous revenez mardi dans Un jour dans le monde, évidemment. Et merci.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean Marfour. Jean-Marc, la guerre en Ukraine est donc entrée aujourd'hui, on le disait, dans son 4e mois et elle semble partie pour durer. Et vous êtes frappé par un paradoxe. Au bout de 3 mois de conflit, les pays qui ne sont pas partie prenante au conflit, les pays pauvres ou émergents, sont en train d'en devenir les premières victimes. C'est votre monde d'après.
Oui, après 3 mois de guerre, le nombre de morts sur le terrain se compte en dizaines de milliers, côté ukrainien d'abord, côté russe sans doute aussi, même si les chiffres sont difficiles à établir, c'est donc considérable. Mais ce n'est peut-être rien par rapport à ce qui se prépare. Le bilan humain le plus lourd se dessine à des milliers et des milliers de kilomètres du conflit dans des pays qui n'ont rien à voir avec cette guerre, ils en sont les victimes indirectes. D'abord en raison de la situation alimentaire mondiale. On connaît bien les termes du débat, l'Ukraine c'est l'un des greniers de la planète, plus de 12% de la production céréalière mondiale. 400 millions de personnes dans le monde dépendent, pour partie en tout cas, de l'Ukraine pour se nourrir, un habitant de la planète sur 20. Or, les exportations ukrainiennes sont en grande partie bloquées par l'occupant russe. Résultat, 28% des exportations mondiales de blé, 20% du maïs, 75% de l'huile de tournesol restent à quai. Dans certains pays comme l'Égypte, le Liban, la Mauritanie, la dépendance à l'Ukraine est quasi totale. Donc, le prix du blé, par exemple, s'envole et avec lui, les risques de famine. Rien que dans l'Est de l'Afrique, des dizaines de millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Si les ports ukrainiens ne sont pas débloqués d'ici fin juillet, une crise mondiale se profile. La Russie utilise évidemment ce blocus comme un levier et une arme de chantage, mais le dénoncer n'y changera rien.
Et il n'y a pas que l'enjeu de l'approvisionnement alimentaire, Jean-Marc.
Il y a en fait un risque beaucoup plus global, celui d'une récession mondiale dont les pays émergents seront les premières victimes. Ces 20 dernières années, ils ont rattrapé une partie de l'écart qui les séparait des pays riches. Tout ça peut être stoppé net. La spirale est à peu près la suivante. Je vous explique le mécanisme. La flambée des prix de l'alimentaire et aussi la flambée des prix de l'énergie avec les sanctions occidentales envisagées sur le pétrole et peut-être le gaz russe, cette flambée alimente l'inflation. Les prix s'envolent, 60% en Argentine, 70% en Turquie, 200% pour l'essence au Sri Lanka. C'est beaucoup, hein, beaucoup plus que les 4 à 10% enregistrés en Europe, dont on parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. La croissance mondiale est révisée à la baisse, ça veut dire moins de commerce, moins d'emplois, plus de chômage. Les États s'endettent pour limiter les hausses de prix. Dans le même temps, en Occident, les banques centrales, la BCE européenne, la Fed américaine, envisagent des hausses des taux d'intérêt pour enrayer l'inflation à domicile, mais ça renchérit mécaniquement le crédit, donc la dette des pays pauvres peut devenir insoutenable, le défaut de paiement menace. Et certaines monnaies pourraient plonger, c'est ce que vient de vivre la roupie en Inde début mai. Pour faire face, plusieurs pays répondent par le protectionnisme, l'arrêt des exportations pour sécuriser leur propre approvisionnement. L'Inde, par exemple, n'exporte plus son blé. L'Argentine limite ses exportations de viande. Mais c'est en fait intenable à moyen terme. La rupture de la chaîne des échanges mondiaux va augmenter encore plus l'inflation.
Sauf que, Jean-Marc, la guerre en Ukraine n'est pas à elle toute seule responsable de tout ça.
Bon, c'est vrai, la pandémie en fait a initié le ralentissement. Et puis, vu le blocage de l'économie chinoise par la stratégie zéro Covid de Pékin aujourd'hui, ça ne va pas s'arranger. La crise climatique accélère les réformes réflexe protectionniste. La guerre en Ukraine vient donc en fait compléter le tableau. Elle amplifie la crise alimentaire et économique. Par effet en chaîne, le risque est élevé dans de nombreux pays pauvres ou émergents de voir se multiplier les mouvements sociaux, les crises politiques et donc les exils vers l'étranger. Même si chaque pays est différent, possède évidemment ses particularités, la liste s'allonge. Le Sri Lanka est en plein chaos, des émeutes ont secoué le Pérou ou l'Iran ces dernières semaines. Les risques sont très forts également dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, le Pakistan. On comprend donc pourquoi de nombreux pays africains, asiatiques ou latino-américains refusent de prendre position sur la guerre en Ukraine. Non seulement ils estiment que ce conflit ne les regarde pas, mais ils en sont surtout les victimes en bout de chaîne. Rien d'étonnant, par exemple, à entendre aujourd'hui même le président sénégalais Macky Sall demander une paix juste, y compris pour la Russie. Cette situation place les Occidentaux face à un dilemme. Soutenir l'Ukraine agressée, accroître les sanctions contre la Russie de Poutine, oui, bien sûr. Mais cette politique peut avoir des conséquences dévastatrices ailleurs dans le monde qui reviendront chez nous en boomerang. Responsabilité politique rejetée sur les Occidentaux, accélération des mouvements migratoires. Il faut faire attention aux effets de bord.
Merci beaucoup Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Filier, Le Téléphone Sonne. Vous passez la soirée avec nous, c'est une bonne idée. Et à la réalisation ce soir, il y a Tristan Gratalmont, Amélie Stadelman et Nathalie Poitvin sont en charge de la programmation. Magda Hervada est au site et à la doc. C'est Marie-Claude Pinson qui est la rédactrice en chef et à la technique. Ce soir, il y a Loïc Frapsos et Louis Audebert. Qu'ils soient tous remerciés.